Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique. Bonjour,
bonjour
à vous.
Valérie.
Christian de Villeneuve, journaliste politique. Bonjour.
Bonjour.
Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne.
Bonjour.
Bonjour. Spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et votre dernier livre, il serait temps d'en sortir un autre. Hein. Le progrès est-il dangereux chez Humain Science? Bonjour Arnaud.
Régis, ça viendra, ça viendra.
Régis de Castelnau, bonjour, avocat, votre
bonjour.
Blog, Vue du droit. Votre dernier livre, tout récent, tout chaud, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Et Emmanuel Macron est en déplacement, il est dans le Lot, pour prendre le pouls des Français. Est-ce qu'il ne serait pas en campagne, ce monsieur? Monsieur, on va en reparler avec vous. Emmanuel Macron, plus populaire à gauche qu'à droite. On va en reparler également. On va reparler de la campagne de vaccination qui stagne un petit peu en France. Et pourtant en Angleterre et en Israël, zéro mort hier. Vaccination, seule porte de sortie de la crise sanitaire. Et certaines catégories rechignent à se faire vacciner. On en parle avec vous dans un instant. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Bah, Régis, on va commencer avec vous.
C'est oui, moi toutes mes propositions de coup de gueule ont été rejetées.
Ah bon. Il y a une censure épouvantable.
La censure est en marche. Dit, bon, voilà, j'ai pas de chance parce que je suis en Provence et c'est le seul endroit de France où il fasse pas beau.
Ah. Hein.
Il fait beaucoup plus chaud à Lille que près d'Avignon où je suis. Donc aujourd'hui, ma journée va être ensoleillée par le match de foot de ce soir. On rentre à nouveau dans le sport avec une triplette d'attaque que le monde entier nous envie. Ça m'amuse beaucoup. Alors, si jamais ça marche pas bien, demain, ça, tout dans tous les cafés du commerce, on va discuter, débattre de ça. Et finalement, je me rends compte que j'aime ça. Les finales des Coupes d'Europe ont eu lieu dans des stades où il y avait avec des jauges, mais pas loin de 20 000 spectateurs. C'était merveilleux. On a retrouvé quelque chose, etc. Alors, j'oblige personne hein, à aimer le foot ou à aimer le sport spectacle, mais personnellement, moi, j'aime ça et je suis bien content que ce soir, on se prépare à un tournoi. Alors, y aura-t-il les Jeux Olympiques? Ça, je ne sais pas, parce que les Japonais ont l'air d'être assez réticents. Les sondages le démontrent.
Oui.
Mais finalement, le retour de ces épreuves sportives sera une façon de revenir à la vie normale.
Pour ce soir, attention au syndrome de Séoul.
C'est quoi le syndrome de Séoul?
Non, c'est
mon pauvre.
Le syndrome de Séoul, c'est en 2002 où la France était hyper favorite et a perdu son premier match contre le Sénégal et n'a pas marqué un but lors de ses trois premiers matchs.
Pas marqué un but.
Oui, je m'en souviens.
On s'en rappelle moins que Nice-là, qui était la Coupe du Monde 2010, où là, ça a été la catastrophe. Humaine avec les comportements des joueurs. Voilà.
Alors,
puisqu'on
parle sport, il y a Johan Blake, vous voyez, qui c'est champion du monde 2011 du 100 mètres, qui a indiqué qu'il refusait de se faire vacciner contre le Covid, quitte à manquer les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Je ne sais pas s'il y a une catégorie où on regarde, parce que je pense qu'ils s'en sont mis quand même pas mal dans le cornet.
Ils sont immunisés grâce à la coke.
Le
mauvais esprit de Valérie Expert.
Mais
moi, je n'y avais pas pensé.
Parlons vrai. Enfin, je veux dire,
vous avez raison, c'est excellent.
Le type, il est champion du monde du 100 mètres. il a bu que de la tisane et il a mangé que des fraises pour avoir la performance. Et je ne sais pas ce qu'il s'est.
Très bonne.
Mais non, mais c'est vrai que c'est quand même un paradoxe. Le type, il ne veut pas se faire vacciner, mais il a dû prendre un paquet de produits. Présomption d'innocence.
Hein. À l'insu de son plein gré.
Mais ça m'a fait sourire, cette petite affaire. Bon, donc, vous serez devant le foot. Arnaud Benedetti, lui, est beaucoup plus sérieux. C'est un coup de cœur pour un livre.
Oui, c'est un coup de cœur pour un livre. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je vous le montre. C'est le dernier livre de Jean-François Colosimo, qui, outre le fait d'être un excellent éditeur aux éditions du CERF, est à la fois philosophe et théologien, et il revient, ce livre s'intitule « Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie ?» Donc il fait une analyse, une espèce de plan de coupe de l'histoire de la Turquie de ces 100 dernières années, notamment après la chute de l'Empire ottoman. Et il montre, contrairement à une idée reçue, qui est une idée reçue, qu'il y aurait finalement une espèce d'antithèse entre ce que fut la Turquie à ses origines, la Turquie, je parle de la Turquie de Mustafa Kemal, et la Turquie d'aujourd'hui d'Erdogan, qu'il existe malheureusement une forme d'ADN historique dans l'histoire de la Turquie depuis un siècle, et que certes Kemal était laïque, respectueux du droit des femmes, mais que Erdogan finalement poursuit un rêve qui est celui que, d'une certaine manière aussi, Mustafa Kemal essayait de mettre en œuvre, c'est-à-dire restaurer une sorte d'influence pan-ottomane dans l'ensemble de sa zone. Donc c'est un livre extrêmement intéressant, très documenté, très intelligent, comme seul le sait le faire Jean-François Colosimo, qui nous avait d'ailleurs gratifié il y a peu de temps d'un très beau livre sur la laïcité, 1000 ans d'histoire française. Oui, je le recommande véritablement, ça vient de sortir. Il est clair que Jean-François Colosimo ne passera pas des vacances en Turquie.
Non, mais en tout cas, brillant, toujours brillant analyste qui est Jean-François Colosimo. Donc ça s'appelle « Le sabre et le turban ». Benjamin.
Alors, moi j'avais envie de mettre un coup de cœur, un petit coup d'éclairage, un grand coup d'éclairage d'ailleurs, un grand coup de cœur à un nouveau réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le réseau Ulysse Entrepreneurs, qui rassemble déjà 250 à 300 entrepreneurs. Ça existe déjà par ailleurs, hein, des regroupements d'entrepreneurs. Là, j'ai trouvé ça intéressant parce que à cette sortie de crise du Covid, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui soit voient le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et pour le coup, eux, ils le voient à moitié plein. Ils se réunissent, ils se structurent, ils vont mettre en place des réseaux par région. Et leur credo, c'est de faire en sorte que les petites entreprises qui n'ont pas d'obligation d'avoir une politique de RSE, d'engagement social et environnemental, eh bien pour le coup, ce réseau Ulysse Entrepreneurs a mis dans sa charte, entre guillemets, l'obligation, mais plutôt l'incitation à ces petits entrepreneurs pour faire du business entre eux, c'est le principe des réseaux, mais d'y intégrer des éléments d'éthique, de développement durable et de respect de l'humain. Alors ça pourrait paraître un peu cuicui et petit oiseau, mais pour le coup, suite à la crise des Gilets jaunes, suite à la crise du Covid, on a bel et bien compris que les entrepreneurs avaient intérêt à se retrouver de façon éthique. Donc voilà, donc je voulais lancer un joli coup de chapeau à cette structure qui s'organise de façon exponentielle, près de 300 entrepreneurs.
Attends, et donc, sur toute la France
Toute la France, donc ils sont déjà en Nouvelle-Aquitaine, il y a un réseau qui est en train de se créer sur Paris, bientôt en Occitanie également. Donc voilà, un grand coup de chapeau, grand coup d'éclairage, ils sont sur tous les réseaux sociaux.
Et le porte-parole était hier chez André Bercoff.
Voilà, voilà, absolument.
Qui a évoqué ça, et puis on confirme bien que le compteur Linky sera payant. Hein. On l'a évoqué hier, certains nous ont dit que non, c'était pas ça, qu'on allait faire des économies, mais je repousse le même coup de gueule qu'hier, ce compteur Linky qui devait être gratuit, qu'on nous a imposé, et voilà. Non, vous voulez réagir, Arnaud ?
Non, je suis complètement d'accord avec vous.
Ouais. Moi, je voudrais juste ajouter que ça caractérise... ça nourrit la défiance, quoi. Et ça, ça retentit la défiance vis-à-vis de la parole publique, et ça retentit sur tout un tas de sujets. C'est-à-dire que le déficit de confiance dans les structures collectives, hein, et dans l'État et dans la sphère publique devient mais critique. Critique. On en reparlera probablement quand on va parler du vaccin.
Bon.
Cette histoire-là, elle est calamiteuse. Elle est calamiteuse.
Oui.
Hier, les explications comme gouvernementales étaient incompréhensibles. Oui. Un jargon qui était inaudible.
Oui. Et ce matin, effectivement, Alain Bazot, qui est le président de l'UFC Que Choisir, disait que les consommateurs ne vont pas payer un peu, ils vont payer complètement. C'est dans le tarif d'utilisation des réseaux d'électricité qu'on va financer le compteur. Donc, c'est des petits arrangements. Entre amis, en tout cas à notre détriment.
C'est surtout la violation de la parole donnée.
Oui, Éric Besson s'était engagé à ce qu'on paye, à ce que ce compteur ne soit pas payant. Non, c'était un engagement. Vous qui êtes avocat, qu'est-ce qu'on peut faire?
Je n'ai pas étudié le problème précisément, mais il y a le principe de confiance légitime, hein, qui est un principe général du droit et que les juridictions doivent appliquer. Ouais. Donc, je ne sais pas. Mais je suppose qu'il y a les associations de consommateurs, etc., qui vont se pencher là-dessus.
Ouais. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un tout petit instant. On aura le coup de gueule de Christian de Villeneuve et puis on parlera de ce Tour de France d'Emmanuel Macron qui commence dans le Lot aujourd'hui. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Régis de Castelnau. Vous êtes avocat, votre blog Vue du droit est régulièrement alimenté de votre pensée. On peut lire également votre livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique. Et Christian de Villeneuve, journaliste, éditorialiste, avec nous pour parler de ce Tour de France d'Emmanuel Macron. Et puis ce sondage IFOP Sud Radio qui nous apprend qu'Emmanuel Macron est plus populaire à gauche qu'à droite. Et puis on parlera de la campagne de vaccination avec Israël qui allège ses mesures sanitaires. Zéro mort en Angleterre. La vaccination qui semble être tout de même la porte de sortie à la crise sanitaire. En tout cas, l'exemple de ces deux pays est assez frappant. Voilà. Christian de Villeneuve, coup de gueule.
Oui, oui, Valérie, les vieilles habitudes reviennent, à savoir un coup de gueule contre l'ensemble des organisations syndicales des aéroports de Paris, qui appellent à une grève du 1er au 5 juillet, ce qui correspond au premier grand départ en vacances. Alors c'est vrai, ils entendent protester contre le plan de réorganisation, voire contre le futur PSE, mais cette réorganisation relève du bon sens quand on sait que les aéroports de Paris ont perdu l'équivalent de 1 milliard 170 millions en 2020 et qu'ils espèrent retrouver l'activité de 2019 entre, regardez la fourchette, entre 2023 et 2027. Donc effectivement, je trouve très mal placé cet appel à la grève qui fait des Français les otages d'une réorganisation indispensable.
Non, mais c'est vrai que c'est assez lamentable cette date-là, évidemment, est choisie à dessein.
Oui, malheureusement, on a l'habitude avec les syndicats en France. Il y a quelques années, ils étaient plusieurs millions de syndiqués. Aujourd'hui, je crois que j'ai entendu hier M. Martinez sur une autre antenne. Bon, finalement, il n'y a plus que 656 000 personnes qui sont syndiquées en France.
Donc, c'est fou.
Un, il n'y a plus grand monde, ils ne représentent plus grand-chose. Ils sont surtout dans le public et encore moins dans le privé. Et puis, la démarche des syndicats, elle est toujours de bloquer avant de discuter. Le jour où ils prendront exemple sur IG Metall, par exemple, en Allemagne, je pense que le pays fera un grand pas.
Absolument. Oui. Arnaud Benedetti, ce préavis.
Oui, moi je partage ce qui vient d'être dit. Alors je crois entre le 1er et le 5 juillet, donc c'est avant les vacances, me semble-t-il.
Oui, c'est au moment des départs.
C'est déjà un peu somme de prendre un avion maintenant.
Ils mettent la pression manifestement sur leur encadrement. Ben, je trouve ça en effet assez. C'est malheureusement récurrent, mais
c'est
très surprenant, c'est qu'ils sont totalement incapables, pour rejoindre ce que disait Benjamin Cauchy, de renouveler leur mode d'action. Et ils ne font pas un lien entre finalement la déperdition militante qui est la leur et les modes d'action qui sont les leurs. Donc je suis très étonné par cette incapacité, en effet, des syndicats français à essayer à un moment donné de voir que les modes de mobilisation qu'ils mettent en place sont des modes de mobilisation qui finalement les entraînent progressivement dans cette impasse, qui est une impasse stratégique aussi en l'occurrence.
Oui, Régis.
Moi, je vais
défendre,
démarquer un peu. Je pense pas que le problème des syndicats aujourd'hui, enfin la désaffection qui est tout à fait incontestable, vis-à-vis des syndicats, est liée à ces modes d'action. Juste une observation, ça concerne effectivement les aéroports de Paris du 1er au 5 juillet. 90% des Français s'en foutent. Hein, ils partiront pas en vacances pour la plupart, ils prennent jamais l'avion pour l'autre part.
Non, attendez,
ça va gêner, les gens comme nous. Hein, et effectivement, alors je dis pas que c'est une bonne idée de faire ça à ce moment-là. Il y a un côté provocateur, etc.
Dites ça à tous les Maghrébins qui rentrent en
avance. Je pense que le calcul qui est fait, c'est un calcul syndical, je connais pas bien le dossier, mais si vous voulez, tout ce qui concerne l'aérien, il faut bien avoir conscience que l'essentiel des Français n'est pas concerné.
Comment peut-on dire ça,
Régis, c'est essentiel. Ouais. Je parle des populaires.
Il y a beaucoup de gens aller à Orly. Il y a énormément de gens qui partent l'été en Tunisie, au Maroc, en Algérie, qui sont pas des gens forcément de classe supérieure. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion. C'est pas
l'avion, aujourd'hui, c'est beaucoup démocratisé.
L'avion est beaucoup moins cher. L'avion est beaucoup moins cher aujourd'hui que le train. Très souvent.
Non, mais je suis d'accord.
Non, mais vous êtes en train de nous dire que l'avion est un privilège de riche.
Je répondais à Arnaud sur les mobilisations syndicales, les formes d'action. Je suis assez d'accord. Effectivement, il y a un vrai problème de syndicalisation, hein, mais je pense pas que ce soit ces modes d'action que personnellement je pourrais déplorer, puisque moi je suis consommateur de vol, hein, et ça pourrait perturber, mais je pense pas que ce soit ça qui soit à l'origine.
On essaie d'attirer les touristes étrangers.
Non, mais ça n'arrange pas leur situation.
Je sais pas.
Oui, Régis, ça pourrait être intéressant, non pas de penser à ceux qui prennent l'avion à Orly, mais plutôt à ceux qui ou à Roissy, mais plutôt à ceux qui atterrissent. Ouais. Et là, pour le coup, ça embête des dizaines de milliers de Français, des gens qui ont des emplois peu qualifiés ou à bas salaire. Je pense aux serveurs, je pense aux petits entrepreneurs qui vont vendre des parapluies, des tours Eiffel en plastique, je pense aux hôteliers et qui, eux aussi, ont envie de travailler et eux aussi ont envie de recevoir des touristes. Alors oui, Régis, je suis d'accord avec toi, il y a peu de Français qui vont prendre l'avion peut-être, mais il y a des dizaines et des centaines de milliers de touristes. Nous sommes quand même encore la première destination mondiale qui malheureusement vont peut-être faire le choix de l'Espagne ou du lieu de la France, et là notre économie va en pâtir. Merci les syndicats.
Ouais, bah écoutez, on verra si ce préavis, en tout cas, c'est fait pour pouvoir mener des négociations. Mais d'accord. C'est vrai que c'est l'affichage est pas formidable. Donc nous avons notre président de la République qui a décidé de faire un tour de France. Il est aujourd'hui dans le Lot, la première étape de ce tour de France pour prendre le pouls des Français. Vous l'avez entendu dans le journal, le village de Saint-Cirq-Laponie. Il ira à Martel, le village de Patrick Sébastien, je trouve pas mes mots. Et donc, c'est un Tour de France qui n'est pas sans rappeler ce qui s'était passé au moment des
La grande marche et le
grand débat. Et là, on est clairement en campagne avec des réactions. Alors, Christian de Villeneuve.
Oui, moi, je pense que c'est clair. Emmanuel Macron cherche à prendre la main et d'une part s'inscrit dans les deux élections à venir. D'une part, il essaye d'enjamber les régionales dont il sait que les résultats ne lui seront pas favorables, et d'autre part, il part carrément en campagne présidentielle. Alors ce qu'on peut regretter d'ailleurs, c'est que ce sont les thèmes nationaux, les thèmes régaliens qui vont être traités pendant une campagne locale, une campagne régionale, qui doit traiter des écoles, de la santé, des transports, etc. Donc ça, bon, effectivement, cela dit, le face-à-face avec les Français lui réussit plutôt pas mal. Hein, la grande marche a été couronnée par un succès puisqu'il a été élu. Le grand débat, il s'en est bien sorti.
Il a bien esquivé, oui.
Oui, mais il s'en est bien sorti quand même. Il s'en est bien sorti. Et puis aujourd'hui, il bénéficie, mais on en parlera plus tard, d'une bonne cote de notoriété.
Oui.
Oui,
il a une cote de notoriété étant président de la République, je préfère. Enfin, pour lui, s'entend.
Oui, ses prédécesseurs n'étaient pas aussi hauts au même moment dans les sondages. Il est quasiment au double. Donc, c'est vrai que c'est.
Je voudrais faire une première observation. Effectivement, c'est un cirque, la Popie, région extraordinaire. C'est une toute petite incise. Comme les Français vont rester en métropole, vont rester en France.
Ils ne pourront pas prendre l'avion.
Toutes les régions se battent pour faire la promotion et tout. On a des spots merveilleux et ça montre que ce pays est quand même assez fabuleux. Hein. Et le coin, je le connais particulièrement où il a été. C'est vraiment. Et puis la saison, c'est vraiment super. Non, effectivement, il y a quand même un côté un peu gênant dans cette au-delà de la nécessité politique que le président de la République qui souhaite se faire réélire soit en campagne permanente, je peux le comprendre. Le problème, c'est qu'on va mobiliser l'État, on va mobiliser un certain nombre de forces pour faire de la campagne électorale. Or, on est à moins de un an du scrutin, toutes les dépenses, toutes les avances qui sont faites sont de nature à impacter le compte de campagne. Hein, je suis tout à fait désolé, Nicolas Sarkozy a vu son compte annulé avec les 11 millions à rembourser, d'où le Sarcoton, en 2012, parce qu'on a réintégré un déplacement présidentiel à l'occasion duquel il avait fait un meeting. Il y avait eu une répartition entre le compte de campagne et l'État qui a été jugé irrégulier par la commission des comptes de campagne. Là, ça recommence, je veux dire, ça recommence comme en 2017, où on a le contrôle de ces comptes n'a pas été fait, il faut être tout à fait clair. Hein, et de nouveau, on remobilise les moyens de l'État pour la campagne électorale du président sortant. Ça ne va pas. Pour moi, ça ne va pas.
Oui. Mais je lisais dans Les Échos ce matin qu'il a prévu de faire une dizaine de déplacements jusque mi-juillet. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, effectivement, est-ce qu'il va nous refaire la même histoire que le grand débat ? Alors, vous disiez que ça avait été une réussite, alors peut-être une réussite médiatique, mais finalement, j'ai l'impression qu'il a mis les miettes de pain sous le tapis et que...
Il a bien occupé le terrain.
Oui, il a occupé le terrain. C'était un petit peu un télé-évangéliste à l'époque. Il faisait des grands débats de 8 heures en bras de chemise. C'est vrai que c'était un... Pour le coup, on peut pas renier que c'est un performeur là-dessus. Il n'y a pas de sujet. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est sur le régalien que les Français attendent des réponses. Et forcément, il faut être honnête, les collectivités territoriales, les régions ne sont pas forcément en capacité de répondre à ce régalien. Alors, on a d'un côté les écolos qui vont dire qu'il faut sauver la planète et donc il faut voter pour eux au régional. Mais bon, les cuicuis, ça ne va pas suffire. On a le Rassemblement national qui dit qu'il faut fermer les frontières. Jusqu'à présent, a priori, il n'y a pas de possibilité de contrôle des frontières par les régions. Et puis, on a Emmanuel Macron qui va venir parler de santé, d'éducation et de sécurité. Et malheureusement, à part financer et cofinancer soit des maisons médicales ou soit des postes de police, la région ne peut pas faire grand-chose. Mmh. Et puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il va en Occitanie. Donc je sais qu'on nous écoute beaucoup en Occitanie. Le Lot fait partie de l'Occitanie. Et donc on voit bien dans les dernières intentions de vote pour les élections régionales en Occitanie, elles sont sorties hier ou avant-hier, que La République En Marche est créditée de 13%, Aurélien Pradier pour les LR est de 14%. Donc on voit bien qu'il y a une petite tentation aussi pour La République En Marche de passer devant les Républicains et peut-être de du coup solliciter les Républicains pour faire une alliance au deuxième tour. Donc il y a un vrai sujet, c'est le département d'Aurélien Pradier, là où il est député. Aurélien Pradier est le candidat des Républicains au régional. Donc je pense qu'au-delà d'une campagne présidentielle, il y a aussi un enjeu politicien. On a vu comment il a bien manœuvré en PACA. Je pense qu'il est en train de filer la même laine pour l'Occitanie.
Allez, on va marquer une pause. Vous réagirez, Arnaud Benedetti, dans un instant. Et vous pouvez vous aussi réagir. 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité, nous parlions du déplacement du président de la République, de son premier déplacement, puisqu'il va y en avoir, il va être suivi, oui c'est ça, de 9 autres déplacements. Il devrait effectuer en juin et juillet donc une dizaine de déplacements ouverts à tous les sujets, parfois en immersion. Il va prendre le temps d'écouter plutôt de s'exprimer, dit-on, dans son entourage. Xavier, un de nos auditeurs, nous dit ce Tour de France est un nouvel enfumage de Macron après celui qui a suivi les Gilets jaunes, performeur ou enfumeur. Voilà, c'est dit. Arnaud Benedetti, en termes de communication politique, vous l'analysez comment ?
Il est clair que depuis quelques semaines, il cherche à sursaturer le débat public par des présences multiples et variées. Ce qui est intéressant, mais ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, c'est que ça intervient en effet, ça a été relevé au moment où on est en campagne pour les régionales et pour les départementales, avec quand même une prise de risque de sa part, et la prise de risque a déjà été prise. C'est-à-dire que finalement, ces élections régionales qui vont quand même être difficiles pour La République En Marche, même s'ils ont des possibilités de gain dans un certain nombre de régions, parce que le jeu des forces politiques qui peuvent se faufiler et rafler une région de-ci, de-là, je pense notamment au centre-Val de Loire ou à la Bretagne, c'est que quand même, ils nationalisent l'enjeu. Ils nationalisent fortement l'enjeu. Alors, ils le nationalisent déjà parce qu'ils envoient beaucoup de ministres, en l'occurrence. Donc déjà, ça, c'est un premier acte de nationalisation. Et là, par, j'allais dire, cette collision de l'agenda propre au président de la République et de l'élection régionale, évidemment, là aussi, il y a un renforcement de cette nationalisation. Mais en fait, bon, il essaye aujourd'hui d'en revenir à une figure qu'il a déjà utilisée, c'est la figure, en effet, du grand débat, dont il considère qu'elle l'a sorti de la crise des Gilets jaunes, ce que je ne crois pas en l'occurrence, mais en tout cas, c'est ce qu'il imagine. Je pense que si la crise des Gilets jaunes s'est éteinte, c'est qu'elle s'est éteinte aussi d'elle-même pour des raisons aussi endogènes au mouvement très compliqué qui était celui des Gilets jaunes. Et puis, ça veut dire qu'il essaye aussi, en termes d'image, finalement, c'est un président qui est très peu enraciné. Il fait de sa propre histoire.
Je n'ai pas entendu.
Très peu enraciné.
Enraciné.
Très peu enraciné. Donc, il est très peu enraciné et il a un parti politique qui est très peu enraciné. Ça a été dit, on l'a vu lors des élections municipales, on va certainement à nouveau le voir lors des élections départementales et régionales. Donc, il supplée par lui-même à ce défaut d'enracinement. Alors ensuite, bon, la question de savoir quel effet ça peut avoir. Là où je partage par contre ce qu'a dit Régis, c'est que je pense qu'il y a un vrai problème quand même. Il y a un vrai problème en termes de confusion entre l'action de l'État et finalement
et la campagne,
campagne préélectorale.
Ouais.
Mais est-ce que ça peut avoir un effet? Je crois qu'aujourd'hui, il bénéficie d'un certain nombre de sondages qui apparaissent en surface favorables. C'est vrai que comparativement à Nicolas Sarkozy ou à François Hollande,
mais encore une fois, c'est de la popularité. Hein, Frédéric Dabi insistait bien là-dessus, de la popularité. On a
Très attention.
Voilà, c'est ça. C'est pas. Je vais voter. Ça ne veut pas dire je vais voter pour lui.
C'est pas de la potentialité électorale, c'est clair.
Oui, quand on regarde des études plus fines, notamment celle qui est faite par le CEVIPOF, le Centre d'études sur la vie politique et l'opinion publique française, on voit quand même que la structure de rejet d'Emmanuel Macron dans un certain nombre de catégories sociales reste très forte. Oui. Ça, c'est à mon avis un point essentiel. Puis le deuxième point, il faut se souvenir, et vous l'avez dit, c'est qu'une cote de popularité ne fait pas une élection.
C'est ça.
Si on avait suivi la cote de popularité de M. Balladur en 1994, et même au début 1995, il eût été élu. Si on avait suivi la cote de popularité
Giscard d'Estaing.
Et la cote de popularité de Lionel Jospin en 2001, il eût été élu en 2002. Donc je crois qu'il faut rester extrêmement prudent.
Et d'Alain Juppé,
on apprécie aujourd'hui ces données-là.
Mais Christian, sur la confusion campagne, parce que tout à l'heure on a évoqué, je crois que c'est Régis qui a évoqué Nicolas Sarkozy.
Les comptes, le président a le droit d'aller rencontrer les Français. Donc peut-être
choisi.
Voilà. Alors le moment choisi, c'est quoi? C'est d'une part, c'est une immense opération de communication avec la France des territoires. Cela lui permet de casser un peu son image d'arrogant, de techno, distant. Et avouons-le, il le fait très bien. Et dans l'exercice, il est très bon. Puis d'autre part, on sort de la pandémie. Et là, il est en train de s'accaparer la communication sur la pandémie.
En disant,
j'ai pas tout fait, tout bien, mais on s'en sort pas plus mal que les autres. Et ça, c'est très important et ça court-circuite les autres.
Tout à fait.
Le problème, je pense, concernant ce que je disais sur la campagne et l'implication de l'État dans cette campagne, qui est contraire, soyons clairs, qui est contraire à la loi de 90, vous savez, faire le départ, c'est la fameuse prime au sortant que le texte a voulu combattre. Le départ entre ce qui relève de l'État, ce qui relève de sa propre communication, il fait que de la communication. Par exemple, tout le financement de l'affaire Carlito McFly, il va falloir qu'on m'explique en quoi c'était l'intérêt de l'État et l'intérêt général qui se livre à cette pantalonnade.
Mais on a parlé aux jeunes.
Ce que je veux dire, c'est que...
Il
n'a pas parlé de politique.
Christian de Villeneuve dit qu'il a parlé aux jeunes, mais ce n'est pas l'intérêt de l'État de faire venir...
Non, mais il a montré son image, c'est comme si vous voulez, dans un bulletin municipal, l'année de l'élection, il n'y a pas de photo du maire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, il faut. Pour l'instant, ce n'est pas le débat. Non, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il intervient, il fait intervenir le débat national les grandes questions, le régalien, voilà. À un moment où c'est au cœur de toutes les problématiques et toutes les régions, et ce que tu disais, c'est tout à fait ça, toutes les régions se sont en train de essayer de capter. Alors j'entendais Bardella qui parlait de sécurité, Valérie Pécresse lui a répondu en proposant plein de mesures à la marge, etc., dont certaines, à mon avis, ne sont pas de la compétence de la région. Il y a une vraie nationalisation du débat des régionales, et il y intervient dans
complètement.
Ce débat.
Complètement.
Ça, c'est clair.
Mais je vois...
Mais ça a toujours été le cas. Hein. Les élections régionales ont toujours été des élections avec des enjeux nationaux.
Oui. Il faut pas avec l'implication du président de la République.
Les élections régionales, il y a 5 ans ou il y a 6 ans, en 2015, les enjeux nationaux avaient extrêmement pesé sur l'élection régionale.
C'était les premiers ministres,
fondamentalement nouveau. La vérité, c'est qu'en plus, les électrices et les électeurs connaissent très mal les compétences des régions.
Absolument.
Donc ça aussi, à mon avis, ça rajoute à la confusion dans ce type de consultation.
Allez, on va marquer une pause. On aura Guy en ligne avec nous, 0826 300 300, si vous voulez vous exprimer sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Christian de Villeneuve, Régis de Castelnau, Arnaud Benedetti et Benjamin Cauchy. Nous parlions donc de cette première visite d'Emmanuel Macron aux Français. Il y en aura 10 autres. Cette campagne qui se confond, et c'est un peu notre débat avec la campagne, entre la campagne présidentielle et la campagne des régionales. Je voyais ce que ce matin Stéphane Séjourné demandait à ce que le temps de parole de certains éditorialistes soit comptabilisé comme du temps de parole politique. Et je vois un auditeur qui lui dit, mais et dans ce cas-là, pourquoi ne pas comptabiliser le temps de parole d'Emmanuel Macron aussi comme,
Évidemment.
Non, ça paraît... ça
Évidemment.
Paraît...
Enfin, bon... Je crois que Monsieur Séjourné, qui est venu dire à propos de CNews, je ne fais pas CNews ici, CNews abaisse le débat. Ben, McFly et Carlito ne l'ont pas élevé. Hein, je suis désolé.
On a Guy en ligne avec nous. Bonjour Guy, vous nous appelez de Paris. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour à vos invités. Merci Sud Radio pour cette belle émission encore une fois. Merci aussi pour les paroles que vous avez prononcées, messieurs, concernant la grève. Parce que j'étais mon propre patron, j'ai eu l'entreprise toute ma vie quasiment, et je sais ce que c'est qu'une grève. Alors, j'interviens sur le voyage d'Emmanuel Macron. Moi, j'appelle ça du bachotage. C'est il y a 4 ans que ce monsieur aurait dû commencer à faire son voyage à travers la France. Et surtout, ce qu'il aurait dû faire au moment où il a fait sa prise de fonction, c'est faire un état des lieux. La nation, en fait, loue un gouvernement à un directeur, à une personne qui est Emmanuel Macron. Quand vous rentrez dans un nouvel appartement, vous faites un état des lieux. Et le propriétaire est obligé de pallier aux défections de cet appartement. S'il avait fait cet état des lieux sincèrement, en disant « voilà où on en est, voilà ce qu'il faut faire », c'est-à-dire faire une reprise en sous-œuvre, voire même dans beaucoup de domaines, là c'était autre chose parce qu'il a prévenu. À partir du moment où il a prévenu, il a dit « voilà comment il faut faire, tous ensemble, et pas faire des discours de 10 heures », pour finalement ne rien dire et faire le contraire quelques jours après de ce qu'il a dit. J'appelle ça, moi, en ce moment, ce qu'il fait, c'est un pansement sur une jambe de bois. Oui. Je souhaite que ça puisse réussir. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais je suis quand même sceptique.
Vous êtes sceptique et le timing, c'est vrai que le timing interroge,
bien sûr.
Interroge le fait qu'il l'ait fait maintenant. Oui. Oui. Merci Guy de votre appel, Benjamin.
Oui, alors, mais en fait, Guy, enfin, je vais répondre, je vais aller dans le sens de Guy. Guy, pour faire un état des lieux, il lui fallu que ce soit un autre locataire avant. Mais n'oublions pas qu'Emmanuel Macron, entre 2012 et 2017, a été à la fois secrétaire général de l'Élysée, mais aussi ministre de François Hollande. Donc, quelque part, faire un état des lieux, c'était admettre aussi une part de sa responsabilité face à une défaillance du pays. Donc, c'est sans doute pour ça qu'il n'a pas fait d'état des lieux. En tout cas, c'est mon point de vue.
Oui. Sur ce Tour de France, donc il commence par des petits villages. Martel, 1600 habitants, nous dit Sylvie. Il y a l'autre village également, Saint-Cyr, La Popie, qui est aussi très peu peuplée. Il y a aussi une volonté d'aller sur des communes rurales.
France des territoires.
France des territoires.
Ouais. En plus, c'est vrai, c'est une France des territoires qui est aujourd'hui, d'abord, c'est une France souvent de droite, qui est très sensible et qui est de plus en plus sensible au renouveau, au RN, là, au FN, anciennement FN, voilà, qui est souvent l'électorat LR. Donc voilà, donc je crois que c'est une vraie démarche dans ce sens, vers la droite.
Oui.
Oui, ce sont des départements...
Alors, dans la campagne, le RN progresse beaucoup.
Oui, ouais. Il progresse beaucoup, et le département du Lot, comme beaucoup de départements en Occitanie, ou même au-dessus, dans le Limousin, je pense à la Corrèze, subissent la disparition des services publics, beaucoup, la désertification médicale, la baisse des effectifs, la fermeture, alors non pas des classes, mais des écoles, hein, il joue sur les mots, donc il va parler finalement à cette France périphérique, mais encore une fois, il n'a pas su à mon avis, leur parler correctement lors du grand débat. Donc, s'il y va pour faire la même chose, j'en suis pas convaincu. Il y a Brice Teinturier, le DG de l'Ipsos, qui disait ce matin, est-ce que Emmanuel Macron va prendre le pouls pour savoir si les Français veulent continuer la transformation ou revenir à une logique de protection et de sécurité? Mais moi, j'ai envie de dire à Brice Teinturier, la transformation politique, ça sera justement de réintégrer cette notion de sécurité et de protection auxquelles les Français aspirent. Ouais. Et notamment dans ces départements. Et quand je pense à la protection, je pense pas forcément à une protection sécuritaire, mais à la protection, entre guillemets, sociale, évidemment.
Oui, ouais. Oui. Arnaud, ouais. Benedetti.
Moi, je pense que surtout, il nous refait le coup de 2016. Oui. Parce que, si vous voulez, le problème d'Emmanuel Macron, son mandat s'est fracassé sur plusieurs crises. Exactement. D'abord, la crise des Gilets jaunes, ensuite la crise sanitaire.
Les retraites.
Et le logiciel politique qui était le sien, c'était quand même un logiciel politique qu'on peut qualifier de techno-libéral, c'est-à-dire d'adapter la société française à un certain nombre de standards indissociables à ses yeux de l'entrée dans la mondialisation. Et il a vraisemblablement aussi conscience qu'il n'a pas pu mener les réformes qu'il souhaitait mener. Alors peut-être parce qu'il s'est mal pris, parce que vraisemblablement un certain nombre d'événements l'ont empêché. Et il est confronté à un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il faut qu'il réenchante un peu ce qu'il était. Et je pense que cette communication, Emmanuel Macron a une grande capacité à faire oublier ce qu'il a fait et d'où il vient. Il avait parfaitement fait oublier, en effet, et ça je rejoins ce que dit Benjamin Cauchy en 2017 et en 2016, qu'il avait été quand même secrétaire général adjoint de François Hollande et son ministre de l'économie. Et là, il est en train d'essayer vraisemblablement de nous faire oublier un certain nombre d'abord de traits d'image et d'aspérité qui ont quand même profondément marqué son mandat. On a parlé un peu parfois de son mépris ou de son arrogance vis-à-vis des classes populaires et des classes moyennes. Souvenez-vous de toutes ces petites vignettes de communication qui ont largement suscité des polémiques et des controverses et creusé vraisemblablement un fossé important entre lui et des segments non négligeables de l'opinion publique. Donc, tout l'enjeu pour lui, c'est de montrer qu'il est encore un candidat neuf. Ouais. C'est ça qui est important. Ouais. C'est-à-dire qu'il était le candidat de la nouveauté en 2016 et 2017, clairement, s'il a bénéficié de circonstances tout à fait exceptionnelles. Il faut qu'il réussisse à réactiver cette idée de la nouveauté. Ça va être un peu plus difficile, parce qu'entre-temps, il y a quand même eu un bilan de 5 ans. Mais je crois qu'en effet, l'objectif principal de cette communication, c'est de renouer, de retisser un lien avec ce qu'il a été en 2016 et en 2017, mais avec, bien évidemment, la difficulté qui est celle d'être un candidat président sortant.
Mais est-ce que ça peut marcher? Est-ce que les Français sont dupes de ça? Oui, Régis.
Alors, je voudrais revenir, effectivement, ce que vient de dire Arnaud, c'est, me semble-t-il, la bonne direction. Faut pas oublier qu'au départ, moi j'ai une anecdote que je rapporte ici, je la pense réelle. Il avait demandé à rencontrer Guy Louis, le gars qui a écrit sur la France périphérique, etc.
Christophe.
Et dans la discussion, Guy Louis lui avait demandé qu'est-ce que vous comptez faire pour cela. C'était en 2016, hein, et Macron aurait répondu je ne sais pas. Bon, on a vu, il y a eu la crise des Gilets jaunes, rappelez-vous, foule haineuse, rappelez-vous toutes ces interventions sur les
citoyens,
les gens qui ne font rien, etc. Il a solidifié, moi je me sers beaucoup de l'analyse de Jérôme Sainte-Marie sur bloc élitaire, bloc populaire, donc ces élections, elles se jouent toujours à la marge. Hein, en France, l'élection présidentielle, c'est maximum 46-54. En général, c'est 52-48. Donc, il a besoin probablement, c'est vrai, là, il va vers ces populations qu'il a maltraitées, soyons clairs, parce que la répression des Gilets jaunes, demandée par Macron et acceptée par l'appareil judiciaire, a été massive. Donc, je pense que là, il essaye un petit peu, sachant qu'il en a besoin de ramener à son bloc élitaire, qui lui est fidèle, hein. On l'a vu aux élections européennes, c'est-à-dire qu'une partie de la bourgeoisie a lâché Bellamy, a lâché les LR pour venir le rejoindre, dans la dernière période d'ailleurs. Donc oui, il va véritablement faire une campagne électorale, là. Je crois que c'est ça.
Alors parlons du sondage IFOP Fiducial pour Paris Match et Sud Radio qui est publié aujourd'hui, donc qui confirme qu'Emmanuel Macron est soutenu par 41% des électeurs, 41% des sondés se disant de gauche disent de soutenir contre seulement 35% de ceux qui se positionnent à droite. Et Europe Écolo, pour les sympathisants Europe Écologie Les Verts, sa cote de popularité est même plus haute, 53% d'électeurs le soutenant contre seulement 35% des Républicains, oui. Encore une fois.
Il y a un phénomène mécanique là. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon analyse, c'est que parce que justement la gauche n'a pas trouvé aujourd'hui une offre politique qui soit satisfaisante ou une personnalité satisfaisante, mécaniquement, notamment par peur de la droite et du Rassemblement national, elle se trouve un candidat aussi par défaut en la personne d'Emmanuel Macron. Et sur la baisse assez spectaculaire, en l'occurrence, dans la cote de confiance à droite, elle s'explique là aussi mécaniquement parce que aujourd'hui le sujet qui est un des sujets majeurs de l'agenda politique est la question de l'autorité et de la sécurité. Une partie de cet électorat juge vraisemblablement les réponses de l'exécutif insuffisantes. Donc là, à mon avis, vous avez deux facteurs qui expliquent à la fois cette déperdition à droite et ce soutien d'une partie de la gauche.
Oui, moi je pense qu'effectivement, l'électorat proche de la social-démocratie est en totale déshérence. Je veux dire, vu l'absence, voire la quasi-disparition du PS, qui n'avance aucune proposition, aucun programme, tout cet électorat qui est important ne peut pas se retrouver non plus sur les outrances de Mélenchon ou sur le sectarisme des Verts. Donc résultat, c'est vrai que Macron bénéficie de cette absence, de cette situation très compliquée et très voilà.
Oui, il y a deux choses. La première, c'est que le Parti Socialiste, au début des années 2000, a changé sa grille de lecture et l'influence de Terra Nova a fait que, du coup, l'électorat les cadors du Parti Socialiste se sont dirigés plus sur un électorat de centre-gauche, plus bourgeois, plus urbain. Et donc, effectivement, le syndrome de l'homo trottinetus, comme je l'appelle, ceux qui s'amusent à aimer l'écologie en ville, mais qui ne supportent pas un coq chanté à la campagne, sont effectivement tentés par Emmanuel Macron, parce que la deuxième raison, c'est que, et Arnaud l'a bien précisé, c'est qu'il y a un problème d'incarnation. Oui. Il y a un problème d'incarnation. Oui. Si on fait un sondage dans la rue, connaissez-vous Olivier Faure, il y en a un sur deux qui va me dire que c'est peut-être un joueur de tennis à Roland-Garros. Donc vous voyez, c'est assez difficile. Yannick Jadot est assis sur une chaise, malheureusement un petit peu bancale, même si les Verts ont eu des grands succès dans les métropoles, malheureusement, il y a toujours une sorte de schisme idéologique au sein des Verts. Qu'il y a les intégristes et puis il y a ceux qui s'ouvrent un petit peu plus. Donc Emmanuel Macron capte cet électorat-là parce qu'il y a une absence d'incarnation. Et puis effectivement, aujourd'hui, les sujets régaliens vont bénéficier à droite.
Il n'y en a pas non plus à droite, d'incarnation.
Non, effectivement, mais il faut être honnête aussi. À droite, il y a un grand sujet.
Je crois qu'il faut regarder les choses en face. Emmanuel Macron est l'héritier de François Hollande, voyons. C'est le Parti Socialiste qui l'a soutenu, tous les classiques du Parti Socialiste en 2017,
la structure,
l'appareil, les ministres. Alors, il a eu quelques prises de guerre avec
Darmanin. Premier ministre, ministre des Affaires et des Finances.
Avec Bruno Le Maire, mais c'était essentiellement socialiste. Donc aujourd'hui, c'est naturel, le candidat naturel de cette gauche, dont Benjamin décrit le parcours depuis 2000, le candidat naturel, c'est Emmanuel Macron.
Bien sûr.
Donc, alors, le problème qui se pose aujourd'hui, moi, ce sondage ne saurait m'étonner, mais je pensais que c'était même plus que ça. Le problème aujourd'hui, c'est que Macron, depuis quelques mois, a droitisé de façon impressionnante son discours.
Son discours, oui.
Alors, il fait toujours du en même temps. Hein. Classiquement, il va, dans la presse américaine, parler de déconstruction et donner des gages aux wokénistes. Hein. Et de l'autre côté, on a Darmanin qui prend le RN par la droite. Alors, ce que je pense, c'est que cette approche de droite, les questions d'insécurité, les questions de violence, les questions d'immigration sont tellement importantes dans le débat. La fameuse étude d'opinion sur le vote de Marine Le Pen, je crois que c'était l'IFOP il y a un mois. Ce qui était très intéressant, c'était ce que pensent les Français. 80% la justice est trop laxiste, 80% islam incompatible avec la République, etc. Je veux dire, c'était impressionnant et ça explique la droitisation du discours. Hein. Et je pense que la rentrée sera très claire de ce point de vue. Je pense qu'on aura un macronisme qui laissera s'exprimer une espèce de virage très à droite.
Allez, on va marquer une pause.
C'est à la gauche pour lui.
On se retrouve dans un petit instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On parle, on a parlé beaucoup d'Emmanuel Macron, beaucoup un peu trop peut-être. Oui, non mais Christian disait qu'il avait le sentiment qu'il y avait un décalage entre ce qu'on dit dans les médias, c'est-à-dire une forme de
macro-bashing,
de macro-bashing et le résultat de ce sondage. Donc, je sais pas, Arnaud, vous en pensez quoi ?
Non, moi je suis pas sûr. C'est-à-dire que je crois que il y a aujourd'hui un effet de loupe concernant la popularité d'Emmanuel Macron. Encore une fois, quand on regarde des études qui sont beaucoup plus fines, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que le laisse entendre ces études. Moi, je pense que les problèmes qui sont les siens, c'est-à-dire le fait qu'il a un vrai souci avec la France des territoires, avec la France des classes populaires et des classes moyennes, reste un handicap très structurant pour lui. Mais évidemment, la chance qui est la sienne aujourd'hui, c'est de bénéficier, encore une fois, d'une scène politique qui est elle-même extrêmement confuse et très balkanisée. Oui. Donc là aussi, presque mécaniquement, il profite de cette scène politique qui n'est pas véritablement recomposée. Et puis, il joue bien évidemment sur la ficelle qui est un peu voyante de se retrouver éventuellement au second tour face à Marine Le Pen, dont il pense qu'il pourra à nouveau la battre, ce qui est une autre question, bien évidemment.
Oui. Enfin,
au vu des résultats de ce sondage, on voit mal comment on pourrait échapper dans un an à l'affrontement Le Pen-Macron.
C'est clair. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que quand on regarde les sondages, il y a quand même un taux d'abstention,
énorme,
un taux d'abstention qui passe de 20 à 40%.
Pas la présidentielle. Pas la présidentielle.
Mais si, justement, il y a des intentions de vote où on parle que de 60% de participation. Ça veut dire que ça représente à peu près 17,5 millions d'inscrits qui ne se prononcent pas pour les élections présidentielles.
Oui, ça, c'est sa chance.
Et donc, forcément, ça crée un espace politique. Donc, c'est à la fois une chance pour Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, c'est la théorie du vide. À côté de lui, il n'y a personne qui incarne une alternative programmatique, à l'exception de Marine Le Pen. Mais moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un ou quelqu'une qui sorte du bois au mois de septembre et qui cherche à incarner ces abstentionnistes qui ne veulent même plus y aller.
Fatima, elle dit, je ne connais personne autour de moi qui vote Macron, travaille, ami, voisin. Au contraire, tout le monde en dit du mal. Ces sondages sont bidons. Alors, je précise que le beau-fils d'Emmanuel Macron ne travaille pas chez Sofret, à IFOP, mais chez Kantar, parce que vous êtes nombreux à dire c'est le fils, c'est le beau-fils d'Emmanuel Macron, il bosse chez Kantar et il s'occupe de médical. Voilà.
Ce que ne racontent pas les sondages, moi je suis de l'avis d'Arnaud, moi j'aime bien aller voir les études assez fines, comme ça, ce que ne racontent pas, c'est le rejet de Macron. Il y a une haine de Macron, une détestation de Macron qui s'est exprimée au moment des Gilets jaunes, et qui reste très présente dans la partie qui lui est opposée politiquement. Hein, ce n'est pas un clivage des républicains classiques, j'ai l'impression. Hein, alors, sur la deuxième question, je pense qu'en ce qui concerne, moi je suis de l'avis de Christian, je vais être en désaccord avec Benjamin, je pense qu'on n'échappera pas au duel Macron-Le Pen en 2022, il y a une espèce d'illusion. Je vois que chez la France Insoumise, on essaye de faire vivre des espoirs. Je crois que je pense qu'on aura droit à ça. Alors après, le résultat, ça je sais pas. Le résultat, je sais pas. Moi, je prends aucun pari. Ceux qui disent que de toute façon l'effet Castor jouera, je pense que c'est pas si clair que ça. Les dynamiques, je vois pas une dynamique se créer au mois de septembre pour quelqu'un d'autre. Hein. Ce qui s'est passé avec Macron ne se reproduira jamais. Un tel alignement des astres, avec y compris une opération judiciaire, hein, je pense que là, on aura droit à ce scénario. Quel en sera le résultat, ça, je ne sais pas.
Ouais. Mais il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent, moi j'ai voté Macron, je ne revoterai pas Macron, je ne voterai pas pour lui. S'il y a un duel Macron-Le Pen, je n'irai pas voter. Beaucoup de gens, je n'irai pas.
Qu'est-ce qu'il se dit aujourd'hui
Non, mais la variable, à mon avis, qui est extrêmement importante et qui pose un problème à Emmanuel Macron, c'est sa capacité à incarner justement une résistance face à la dynamique du Rassemblement national. Si, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, on voit que l'écart dans l'hypothèse d'un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron est un écart qui reste, en tout cas dans l'étiage que celui que nous donne le sondage, voire s'il se réduit, il y a la possibilité, en tout cas peut-être pour une tierce candidature, de constituer une forme d'alternative. Il peut y avoir un effet de déperdition dans l'électorat et dans la base sociologique de l'électorat d'Emmanuel Macron, considérant que justement il n'incarne plus le barrage par rapport au Rassemblement national. Donc dans cette hypothèse-là, il y a quand même encore du jeu, même si je partage globalement l'analyse selon laquelle quand même l'hypothèse aujourd'hui qui reste la plus probable pour des raisons qui sont des raisons sociologiques de fond, c'est de se retrouver dans un deuxième tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Oui.
Non mais ça, Arnaud, c'est le plan B. C'est le plan B, tout le monde y pense B, des grands intérêts y pensent au plan B, tout le monde se parle, etc., il faut le dire, hein. Mais on nous a vendu l'ISNAR, même pas en rêve. Après, on a essayé de voir si Édouard Philippe, on pouvait pas imaginer quelque chose, il y a Barnier maintenant, Barnier au secours.
Oh non, s'il vous plaît. Hein.
Et donc, tout le monde, on essaye le plan B, parce que quand même…
Il y a Bertrand.
Bertrand, il plafonne. Oui. Hein, et surtout, je veux dire, son camp est quand même très divisé. Il a quitté l'UMP, etc.
Il n'a pas que des amis dans son cœur.
Alors, est-ce qu'il arrivera à Macron la même chose que ce qui est arrivé à Hollande? C'est qu'Hollande a eu des visites et on lui a dit qu'il allait perdre contre Marine Le Pen et qu'il ne fallait pas qu'il se représente. C'est ce qu'on m'a raconté. Hein. Je n'étais pas dans la pièce. Ça s'est passé. Est-ce que là, Macron pourrait être débranché? J'y crois pas trop, parce que c'est le personnage. Je vois pas le personnage renoncer tel qu'il est, gothique, etc., renoncer à aller au combat. Ça, ça m'étonnerait. Donc, le plan B, Arnaud, désolé, mais personnellement, j'y crois pas beaucoup.
Écoutez, c'est un peu tôt pour que
Benjamin y croit, c'est normal.
Ouais. Je voudrais qu'on dise quelques mots de la vaccination. Christian, c'est un sujet que vous vouliez évoquer. La vaccination est ouverte, vous le savez, depuis lundi à tous les Français de plus de 18 ans. Jean Castex l'a dit, martelé. Son objectif, c'est d'aller chercher les plus fragiles qui ne sont pas encore vaccinés. Il y a environ 15% de Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Pourtant, l'immunité collective semble être la seule porte de sortie pour revivre normalement.
Oui, d'ailleurs, le gouvernement lance une nouvelle campagne en faveur de la vaccination. Et moi, je vais terminer par un coup de gueule, mais j'en suis désolé, mais c'est vrai que je suis très choqué par le fait que le personnel soignant, un nombre important encore du personnel soignant, qui refuse de se faire vacciner, alors qu'ils devraient être les premiers justement à inciter, quand on sait que la vaccination est la seule solution pour s'en sortir. Voilà, donc c'est là, je trouve que le personnel soignant devrait. Je pense qu'il faut à un moment, il faut rendre la vaccination obligatoire. Tout simplement.
C'est politiquement très dangereux.
Oui, mais il y a d'autres vaccins, qui sont obligatoires, on le sait. Donc, à un moment, on sait que la seule façon d'éradiquer la pandémie, c'est la vaccination. Il y a un moment où il faut prendre des décisions et faire preuve d'autorité.
Oui, alors moi, je ne suis pas du tout pour le vaccin obligatoire. Je pense qu'il faut laisser libre arbitre aux Français. Les Français ne sont pas des enfants. Ils ont trop l'habitude de se faire infantiliser. Je ne remets pas en cause l'efficacité du vaccin, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, que chacun soit libre de pouvoir ou non se faire vacciner. Et puis je vous rappelle quand même que Fischer nous dit quand même que être vacciné n'empêche en rien le fait de pouvoir transmettre
virus. Moins, c'est un argument qui est ressorti régulièrement, mais beaucoup moins, vous avez moins de risques d'être contaminé et contaminant. Donc, et de surtout développer des formes rares, mais des formes graves, mais c'est surtout effectivement la probabilité de contamination est quand même moindre.
Moi, je serais plutôt d'avis à balancer un maximum d'autotests partout, d'arrêter les PCR qui laissent des traces trop infimes et d'envoyer le maximum d'autotests, y compris que les entreprises prennent en charge ces autotests, et de pouvoir laisser cette liberté vaccinale aux Français.
Régis ?
Sur la liberté vaccinale, le vaccin obligatoire en principe, il y en a tellement qu'ils le sont, ça ne me gênerait pas en principe. Mais le problème, c'est l'acceptabilité sociale. Moi, ce qui me frappe dans cette période, c'est le niveau de refus, c'est-à-dire y compris avec des parties importantes de la population qui basculent dans des formes d'irrationalisme. On entend toute une série de discours. Alors, je ne suis pas en train de faire de l'anticomplotisme du tout, parce que je pense qu'il est normal...
Rester complotiste, alors.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un grand foutoir, quoi. C'est une cacophonie. Et c'est un double vacciné qui vous le dit. Donc, moi, personnellement, je me suis fait vacciner.
Prépare-toi à la troisième dose, alors.
J'espère que tout ça se passera bien et j'en ai même la conviction, et je pense que la vaccination générale, mais je sais qu'on bute sur aujourd'hui des obstacles qu'il est difficile ou de surmonter ou même de contourner. Je suis assez pessimiste sur... Il y a trop de déception, il y a trop de défiance vis-à-vis du pouvoir pour que aujourd'hui on puisse passer à des vaccinations massives et aussi bien accepter que les obligatoires.
Allez, c'est terminé, vous n'aurez pas la parole, Arnaud, je vous censure, mais c'est fini, il faut que je rende à l'heure dans un instant André Bercoff, et nous on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.